On le sait, là, le mouvement Desjardins est excessivement populaire et fort ici en Outaouais, des caisses très performantes avec beaucoup de sociétaires. La conséquence de cela, c'est qu'il y a pas mal de monde inquiet. Pas mal de monde inquiet qui ont appris que pour 2,9 millions d'entre nous, c'est bien du monde, là, et pas mal de monde en Outaouais, j'ai l'impression, nos informations personnelles ont été, je ne sais pas quel verbe prendre, volées, transmises ces informations de façon frauduleuse, illégale, clandestine. Il y a quelqu'un qui détient maintenant ces informations-là. Les conséquences sont majeures, peuvent être majeures, notamment au niveau du vol d'identité. Des gens peuvent utiliser ces informations pour notamment faire des demandes de crédit, pour toutes sortes de choses. Alors, c'est certain que les sociétaires sont inquiets. On a tenté hier d'avoir plus d'informations parce que Desjardins a déjà agi rapidement, a informé les gens que, pour les comptes, c'est pas pire, les comptes chez Desjardins, c'est pas pire, mais par contre, pour la suite des choses, on va faire affaire avec Equifax. Puis là, on va envoyer une lettre, puis voir un code, puis on va accéder à Equifax. Bon, déjà là, il y a un problème, les attentes sont interminables, le fait français est difficile. Quand on parle à Equifax, ils refusent toute demande d'entrevue. Belle transparence, pour expliquer leur service. Puis ce qu'on ne dit pas, c'est il arrive quoi si quelqu'un vole notre identité puis demande, fait une demande de prêt. Demande un prêt dans une autre caisse, dans une banque, peu importe, veut acheter des meubles, une voiture. Il arrive quoi? Parce que là, ça affecte notre dossier de crédit, ça va prendre combien de temps à régler la situation? Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et hier, je tentais d'avoir une entrevue avec Desjardins qui avait pourtant accepté de parler à la presse. Il refusait de répondre aux questions ici en Outaouais. Très content de voir qu'ils ont changé d'idée, qu'ils acceptent de répondre à nos questions aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Il est vice-président aux communications d'entreprise chez Desjardins. Marc Briand-Chamberlain est avec moi. Bonjour, M. Chamberlain.
Bonjour, M. Chalette.
Bon, bien, merci d'être là aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Il y a 2,9 millions de membres qui sont touchés par cette fuite d'informations. C'est toujours le bon nombre?
Oui, dans le fond, on parle de 2,7 millions de membres particuliers et 173 000 entreprises.
D'accord. Ces membres sont du côté tant du Québec que de l'Ontario. Les caisses de l'Ontario sont touchées aussi?
Oui, dans le fond, le critère qu'il faut retenir, là, c'est que ce sont des membres d'une caisse Desjardins. Donc, on ne parle pas ici de gens qui seraient exclusivement clients, par exemple, en assurance ou dans un autre secteur d'affaires sans être membre d'une caisse.
D'accord. Il y a combien de gens touchés en Outaouais?
J'ai malheureusement pas le chiffre ça, pour l'Outaouais. J'ai le chiffre global, mais je ne l'ai pas par région. Je suis désolé.
Est-ce que Desjardins l'a?
Écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui l'a, mais moi, honnêtement, je n'ai pas la donnée là, avec moi. En toute transparence, je n'ai pas ce chiffre-là.
Est-ce que toutes les régions sont touchées également?
Ben, ce qu'on nous a dit, c'est que ça touchait globalement là, vraiment un peu partout. Donc, j'ai pas une répartition géographique, mais oui, il y a des gens en Ontario, il y en a un peu partout au Québec. Alors, ça semble être réparti là, de façon, dans l'ensemble là, du réseau.
OK. On va commencer au commencement. Comment ça a pu arriver?
Bien, il y a des détails qu'on ne peut pas dévoiler étant donné qu'il y a une enquête criminelle en cours et donc ça, il faut la respecter. Mais l'employé en question, donc c'était un employé qui n'est plus naturellement à l'emploi de Desjardins au moment où on se parle, il avait, dans le cadre de ses fonctions, à travailler avec certaines informations. Pas toute l'information qu'il a partagée de façon malicieuse, mais il avait à travailler avec de l'information. Et ce qui s'est passé, en fond, c'est qu'avec un stratagème, il a réussi à obtenir d'autres informations pour la partager illégalement à l'extérieur de Desjardins.
OK. Quand vous me dites qu'il a partagé, mais probablement, j'imagine que vous êtes capable d'identifier vers quoi il a partagé ça, vers quelle adresse IP. Qui a nos données?
Alors, on a reçu, nous, la liste qui a été donc partagée par l'individu du service de police de Laval. Donc, on a poursu ça d'une adresse IP, on a poursu ça de quelque chose comme ça. C'est dans le cadre de leur enquête, le service de police de Laval a trouvé de l'information à l'externe. Et cette information-là, dans le fond, nous a été transmise par la suite des fichiers. Et après avoir été analysé, eh bien, on a été capable, justement, là, d'identifier les gens qui étaient concernés.
OK, fait que vous savez où est allée l'information?
On ne sait pas où est allée l'information parce que c'est le service de police de Laval, dans le cadre d'une enquête, qui l'a récupérée. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a été partagée à l'externe parce que la police de Laval l'a retrouvée à l'extérieur des bureaux Desjardins.
OK. Savez-vous si c'est entre les mains du crime organisé?
On n'a pas cette information-là. Toutefois, on s'est permis de qualifier notre ex-collègue d'employé malicieux. On laisse au service de police de Laval d'utiliser le terme criminel parce qu'on n'est pas un service policier. Mais à notre avis, il n'a pas fait ça avec de bonnes intentions. Ça va de soi.
OK, c'est pas une erreur, là.
Non, c'est pas une erreur, mais c'est pour ça que l'employé, dès qu'on a pu l'identifier, ça a pris, je vous dirais, un 24 à 36 heures d'enquête interne. Il a été immédiatement suspendu et congédié très rapidement par la suite.
OK. Quelles informations ont été transmises?
Bon, on parle de renseignements qui concernent nos membres. Donc, ça peut être, par exemple, les adresses, numéros de téléphone, adresses de courriel et des informations sur les habitudes de consommation chez Desjardins ou sur des types de produits détenus chez Desjardins.
OK. Nom, adresse, téléphone, courriel. Vous n'avez pas parlé de la date de naissance.
Comme je disais, ce sont des informations comme celle-ci, donc qui décrivent le membre. Alors, il peut y avoir effectivement date de naissance, adresse, courriel, on en a parlé. Donc, ce genre d'informations-là qui permettent d'identifier un membre font partie effectivement de l'information là, qui a été partagée à l'extérieur.
Numéro d'assurance sociale?
Le numéro d'assurance sociale en fait partie aussi, tout à fait.
Solde du compte de banque?
Bien, vous avez la détention, dans le fond. Donc, vous n'avez pas de l'information qui est parcellaire, mais vous avez une détention totale. L'autre chose que vous n'avez pas dans ce qui a été transmis, et c'est bien important, c'est les numéros d'identification personnelle, les NIP qu'on appelle, les mots de passe, ou les questions secrètes ou les réponses aux questions secrètes okay. que les membres avaient.
OK. Mais, et je ne suis pas expert là-dedans, là, mais quand quelqu'un de mal intentionné détient le nom de quelqu'un, son adresse, son téléphone, son courriel, sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale, c'est suffisant. Et là, je vous place dans le domaine bancaire, là. C'est suffisant pour une institution bancaire pour analyser une demande de prêt.
Il y a, je vous dirais, ils ont de l'information, à l'évidence, qui a été transmise, qui peut faciliter le travail d'un fraudeur. Un fraudeur, dans le fond, peut trouver ces informations-là en cherchant sur différentes plateformes, par exemple les réseaux sociaux ou autres. Mais là, ce qu'on constate, dans le fond, c'est que, de façon, encore une fois, malicieuse, il y a de l'information qui a été partagée qui peut faciliter le travail d'un fraudeur. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce que vous êtes dans la liste des gens qui ont été exposés, que vous êtes fraudé. Et là-dessus, quand on regarde le suivi de la fraude, il n'y a pas d'augmentation de la fraude actuellement là, chez Desjardins.
OK, on arrive à ça. Ce que j'ai compris de vos propos, là, collectivement, c'est que, essentiellement, parce que les NIP sont pas là, puis les mots de passe, etc., vous avez une certaine, une certaine garantie que les gens n'ont pas accès à nos comptes de banque. Si j'ai bien compris, ils seront pas capables de faire une carte de débit, puis aller vider le compte de banque, ou aller au guichet, puis retirer ça. Vous êtes assez confiant de cela.
Ben, on a d'un, comme je disais, ces informations-là n'ont pas été divulguées, les mots de passe, les questions secrètes, toutes ces choses-là. De deux, dès qu'on a été mis au courant, on a augmenté toutes les mesures de sécurité chez Desjardins. Et ça, pas seulement pour les gens qui sont concernés par la situation actuelle, mais pour l'ensemble des gens. Et c'est ce qui fait que, oui, le vol ou la criminalité est toujours possible, on s'entend. Mais les mesures qui ont été mises en place ont permis justement de constater là, qu'il n'y a pas dose de la fraude chez Desjardins.
OK. Une question juste pour les informations transmises. Dites-moi, quelqu'un qui est membre chez vous, c'est mon cas, soit dit en passant, puis c'est mon cas aussi, là, l'information, on m'a confirmé que mon information a été distribuée. Mais je suis aussi détenteur d'une carte, par exemple Visa chez vous. Est-ce que mon numéro de carte Visa a été donné?
Les numéros de carte ne faisaient pas partie de l'information là, qui a été divulguée. On parle vraiment, encore une fois, là, les informations qui peuvent vous identifier ou vos habitudes de consommation ou certains produits que vous aviez chez Desjardins. Mais il n'y avait pas les numéros de carte de crédit.
OK. Là, vous avez décidé d'utiliser le service postal canadien pour envoyer une lettre aux gens pour leur dire essentiellement « Vous êtes touché » et « Voici un code chez Equifax ». Alors, j'aimerais ça là, qu'on prenne du temps pour que vous puissiez m'expliquer c'est quoi ça? C'est quoi Equifax? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça me donne?
Bien, je pense que la question est importante, effectivement. Il faut bien différencier les choses. De un membre Desjardins qui serait victime d'une fraude, ses avoirs, ses transactions, tout ça, c'est protégé. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude. De deux, si jamais il y avait, dans l'éventualité où c'est très, très rare, mais un vol d'identité, il y a une assistance pour restaurer l'identité qui est fournie à tous nos membres gratuitement, et ça, c'est à vie. Donc ça, on le met de côté déjà en partant. Et Equifax, qu'est-ce qu'on vient ajouter? C'est qu'il y a un système d'alertage, dans le fond. Alors, Equifax est en mesure de regarder sur les différentes plateformes, sur les sites ou avec les transactions chez les autres commerçants s'il y a une opération suspecte qui se produit. Et ce faisant, en vous inscrivant à Equifax, vous pouvez recevoir une alerte lorsqu'il y a quelque chose de suspect qui se produit chez vous.
OK. Mais encore. Alors, voici mon exemple. Vous m'envoyez le code. Je réussis, parce que là, on va l'aborder, là, l'accessibilité difficile, etc. Mais mettons que je réussis à rentrer, puis là, je mets l'alerte. Oups! Il y a quelqu'un qui s'en va acheter un sofa à crédit chez Bro Martineau. Je vois ça, moi. Qu'est-ce que je fais?
Bon, alors vous avez ça de un, il va effectivement, lorsque vous êtes inscrit à Equifax, il va y avoir, si on pourrait appeler ça, un drapeau dans votre dossier. Donc, le marchand en tant que tel, lui, va avoir une indication comme quoi il peut y avoir quelque chose. Donc, on éveille l'alerte du marchand et vous recevez effectivement une notification. Et donc, en faisant ça, vous pouvez contacter immédiatement la compagnie de carte de crédit. Vous êtes avec Visa Desjardins, par exemple. Vous contactez, vous confirmez que ce n'est pas vous qui avez fait cette transaction-là. La carte est désactivée, on vous en envoie une autre. Et donc, vous n'êtes pas facturé pour cette transaction-là.
OK, mais ça, c'est la carte. Mais disons que c'est une demande de prêt. Chez Desjardins quelque part. Puis là, je vois, ben non, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas fait ça, cette demande-là. Qu'est-ce qui arrive?
Alors, c'est la même chose. Donc, s'il y a une demande de prêt de un, tous nos membres là, qui actuellement font partie de la fuite, de la situation dont on parle, il y a des notes au dossier pour s'assurer qu'on a une, je dirais pas double, mais bien triple ou quadruple vigilance. Donc, les gens qui sont actuellement chez Desjardins en caisse vont s'assurer d'être vraiment vigilants pour bien authentifier le membre. Si jamais, encore une fois, donc le crime est ce qu'il est, donc on ne peut jamais garantir à 100%, bien vous allez recevoir aussi une notification s'il y a une transaction ou une opération qui est suspecte. Et là, à ce moment-là, encore une fois, vous appelez la caisse, on va s'assurer que le membre ne soit pas impacté là, par une transaction qu'il n'aurait pas faite.
Alors, l'interaction du sociétaire, du membre Desjardins, ce n'est pas mis à part du fait qu'on utilise l'information provenant d'Equifax, mais on n'a pas affaire à Equifax. C'est pas Equifax qui va enlever la demande de prêt de notre dossier, là. On fait toujours affaire avec Desjardins ou Visa, mais jamais avec Equifax.
Bien, Equifax, dans le fond, vous permet d'avoir de un, je vous parlais tout à l'heure de l'assistance en restauration de vol d'identité, Equifax le fournit aussi. Donc, il y a de ça. Donc, un membre qui aurait l'assurance avec Equifax pourrait décider de faire affaire avec Equifax pour ce service-là. Pour ce qui est de l'alertage, ça va lui permettre aussi d'avoir les notifications. Donc, ça, il l'a avec Equifax. Mais l'alerte va lui permettre d'identifier quelle a été la transaction. Donc, de façon à aller plus vite, on peut appeler directement l'institution financière. On a un service de prévention de la fraude qui est ouvert 24/7. Et donc, nous, on est habilité à prendre en charge nos membres et les accompagner là-dedans. Mmh.
Je viens de faire une entrevue, soit dit en passant, avec un de vos membres qui est victime d'un vol d'identité. Puis que là, il se fait jouer en ping-pong entre votre caisse et Equifax. Puis c'est pas chic parce que j'ai les courriels devant moi. Là. Puis la relation que vous avez chez Desjardins avec Equifax, c'est pas au beau fixe. Là. Je vais vous lire un passage. Ça, c'est quelqu'un chez vous qui écrit ça à Equifax. « Nous tenons à vous dire que nous sommes réellement surpris, considérant le professionnalisme de nos deux institutions et la longue période de relations d'affaires, plus de 40 ans pour être exact, que votre représentant chez Equifax ferme la demande du requérant là, sans que vous ne fassiez une deuxième ou troisième demande de renseignement si nécessaire, puisque nous cherchons toujours la première demande de renseignement que vous dites nous avoir envoyée. L'histoire, c'est que le gars peut pas avoir un prêt hypothécaire parce qu'il y a déjà un autre prêt dans le système qui n'est pas de lui. Et là, Equifax et Desjardins se chicanent entre eux. Si c'est le présage de comment vous allez gérer ça, on n'est pas sorti de l'auberge.
Écoutez, c'est difficile pour moi de commenter un cas spécifique pour lequel je n'ai pas l'information, mais chose certaine, la personne qui vous a écrit, moi, je lui conseille très fortement d'appeler notre service de prévention de la fraude, qu'on puisse s'assurer de regarder son dossier. Et si vous me transmettez ses coordonnées après l'entrevue, il va me faire plaisir de m'assurer que quelqu'un va prendre contact avec lui.
Ben oui, OK, on s'entend, je vais faire ça très certainement. Vous allez comprendre que j'ai préservé son nom, par contre, de façon publique, j'ai pas voulu donner son nom publiquement, vous allez comprendre ça.
C'est pour ça que je vous ai dit après l'entrevue, on tient la protection, effectivement. De son identité, tout à fait.
OK. Alors, si quelqu'un... Juste pour comprendre, parce que là, vous dites que vous allez envoyer par la poste les mots-clés, les mots de passe pour Equifax. Par rapport au moment... Premièrement, l'information, ça remonte à quand? Le transfert d'informations de façon illégale, disons-le comme ça, ça remonte à quand? Est-ce que vous avez la date?
On n'a pas la date, c'est dans l'enquête. Ce que je peux vous dire à nouveau, c'est ça, c'est qu'on a reçu, dans le fond, l'information du service de police de Laval le 14 juin, mais j'ai pas la date à laquelle l'information aurait pu être distribuée.
14 juin, puis là, les lettres vont finir d'arriver chez les Québécois. À quelle date?
Les dernières lettres devraient être mises à la poste là, à la mi-juillet. Donc, on
un
parle
mois.
De peut-être là, une semaine ou deux encore.
Oui, ça va être un mois, par contre. À mi-juillet, ça veut dire... Et par le temps qu'on réussisse à maintenant faire affaire avec Equifax, peut-être 6 semaines, 5 semaines d'écart, c'est beaucoup, non?
Bien, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'encore une fois, les transactions, l'argent que les gens ont chez Desjardins, c'est protégé. Donc, ça, c'est la première des choses. Equifax, pas Equifax, on l'a. Et la deuxième chose, c'est que la protection, dans le fond, va venir donner l'alerte dont on parlait tout à l'heure. Et lorsqu'on regarde actuellement la situation, il n'y a pas de dose de la fraude. Alors, l'alerte va permettre de donner une tranquillité d'esprit.
Il y a pas de...
et peut...
Attendez un petit peu. Là, il n'y a pas de hausse de la fraude. Le monde a toute la misère du monde à s'inscrire chez Equifax. Alors, ils savent pas s'il y a eu une fraude. Moi, là, je suis un exemple parfait. Je suis pas inscrit encore. Je suis pas capable d'avoir la ligne. Puis, je suis pas capable. J'ai pas été capable de m'inscrire en ligne encore. Je n'ai pas été capable d'avoir le téléphone. Puis, je suis pas capable de m'inscrire en ligne. Je sais pas, moi, si quelqu'un a fait une demande de crédit à mon nom encore. Fait que quand vous me dites qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de hausse de fraude, très bien, je vous crois. Mais il y a des explications possibles. Ou c'est parce qu'il n'y a pas de demande de hausse de fraude, ou c'est parce que les Québécois n'ont pas réussi à s'inscrire chez Equifax. D'où les problèmes que vous avez même, constatés. Corroborer le fait que la ligne téléphonique, c'est l'enfer. Probablement pas assez de personnel francophone. Les claviers français ne marchent pas avec le site web. Ça non plus, c'est pas fort.
Oui, il y a plusieurs choses que vous dites. La hausse de la fraude, dans le fond, vous savez, il faut vraiment regarder la fraude dans la situation pour la comprendre, qui n'est pas nécessairement dans celle d'aujourd'hui. Là. Si vous avez une fraude, et moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai reçu une notification de Visa Desjardins qui m'indiquait est-ce que c'est vraiment vous qui avez utilisé la carte pour faire une transaction à tel moment. Et ça, Desjardins a des mécanismes qui permettent justement d'identifier ce type de fraude-là. Et comme je vous disais, on a rehaussé, dans le fond, les mesures de protection actuellement pour être sûr là, d'avoir une très grande vigilance. Alors, ça, si on peut rassurer les gens, c'est pas parce qu'encore une fois, la liste est sortie que les gens sont fraudés. La deuxième, quelqu'un qui veut vérifier son dossier de crédit, suraccéder, il y a l'application MaCote. Et donc, on peut aller suraccéder, on va dans les options en bas à droite et on est capable d'avoir accès à sa cote de crédit en temps réel.
Okay.
Et donc, ça permet aussi d'avoir un aperçu de son crédit, de voir est-ce qu'il y a quelque chose de louche. Donc, ça peut être un conseil qu'on peut donner. C'est gratuit, c'est accessible à tous les membres.
Est-ce que là-dessus, je sais si quelqu'un fait une demande de crédit à mon nom?
Vous n'aurez pas toutes les demandes de crédit qui ont été faites, mais vous allez voir l'état de votre cote de crédit. Alors, si quelqu'un constate que la cote n'est pas adéquate ou constate des transactions, encore une fois, comme je disais, et ça, c'est toujours un conseil qu'on donne à tout le monde de surveiller ses comptes. Surveiller, par exemple, son relevé de carte de crédit ou surveiller son compte bancaire, peu importe qu'on parle de la situation d'aujourd'hui ou une autre,
okay.
On doit toujours faire ce genre de vérification-là.
Pour régler, et on va terminer avec ça, pour régler les enjeux avec Equifax, qu'est-ce que vous faites de bien spécial là, pour accélérer le traitement au téléphone, pour faciliter le traitement en français? Est-ce que vous avez notamment demandé à Equifax d'être plus transparent auprès des Québécois pour être capable de répondre à des questions, considérant qu'ils refusent les demandes d'entrevue?
C'est clair qu'on a demandé à Equifax d'augmenter sa capacité téléphonique parce que vous l'avez dit et on l'a constaté, il y a des gens qui actuellement peinent à avoir le service téléphonique. On a fait différentes choses avec eux. La première, c'est qu'on a travaillé pour faciliter la façon de s'identifier sur le site web. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de questions. Hein, Equifax veut s'assurer qu'il y a bien la bonne personne qui s'inscrit,
ouais.
Justement pour protéger l'identité. Et donc, on a trouvé avec eux des mécanismes pour faciliter l'authentification, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on s'inscrit en ligne. Il peut rester des cas de figure, par exemple, si vous avez un nom qui est plus commun, disons un Tremblay, par exemple, puis un autre Tremblay au Québec qui a le même prénom que vous, bien là, oui, effectivement, on doit finir au téléphone. Mais sinon, ça l'a grandement simplifié. La deuxième chose qu'on regarde, c'est de voir de quelle façon, nous, chez Desjardins, on pourrait accompagner nos membres plus loin dans le processus. Donc, sans même qu'il ait besoin d'aller chez Equifax, c'est une solution qu'on regarde actuellement qui n'est pas finie de développer parce qu'il faut trouver les liens et les passerelles entre les systèmes. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus 24/7 depuis plusieurs jours.
OK. Puis le code, puis la protection Equifax, parce qu'on paye habituellement, là, c'est Desjardins qui va payer pour ça, c'est ce que je comprends.
Tout à fait.
OK. C'est bon pour 5 ans?
Oui, donc l'offre est faite pour 5 ans et ça va être la même chose pour TransUnion lorsqu'on va offrir le service.
OK. Est-ce que c'est aussi valable, disons, la période de 5 ans, si on décide de quitter Desjardins?
Oui, tout à fait. Une fois que la personne va être inscrite, elle est abonnée au service d'Equifax gratuitement, 5 ans, sans problème.
Même si on est rendu à la Banque de Montréal?
Tout à fait.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'éclairer cette lanterne qui est très, très ambiguë encore pour plusieurs personnes. Mais grâce à vos commentaires, je pense que les gens y voient plus clair. Merci, M. Chamberlain.
C'est un plaisir.
Merci, au revoir. Alors,
Au revoir.
Marc Briand-Chamberlain, il est vice-président aux communications d'entreprise chez Desjardins.